Émission spéciale. Juan Gomez et Claire Hédon font le point sur l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola.
Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI modifie ses programmes. Ce matin, appel sur l'actualité et priorité santé s'associe pour vous proposer une émission spéciale consacrée à l'épidémie d'Ebola. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Durant deux heures, RFI vous donne la parole. Nous répondrons à toutes vos questions sur le diagnostic, les traitements, la prévention. Nous attendons également, évidemment, vos commentaires, vos témoignages sur la mobilisation internationale, sur les moyens qui sont mis en œuvre en ce moment dans votre pays. Que vous inspire la gestion de cette crise sanitaire, d'autant qu'il s'agit de la plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée, plus de 1500 morts depuis le début de cette année. L'épidémie poursuit son avancée après la Guinée, la Sierra Leone et le Nigeria. Un nouveau foyer est apparu il y a quelques jours en République démocratique du Congo et depuis vendredi dernier, vous le savez, le Sénégal a confirmé le premier cas de fièvre Ebola. Vos questions, vos témoignages, vos réactions, un seul numéro de téléphone, 33 9 693 693 70, notez bien, 33 9 693 693 70, et vous nous rejoignez sur la page Facebook de Priorité Santé et d'Appel sur l'actualité. Claire, plusieurs invités évidemment durant ces deux heures.
Autour de cette table, le professeur Jean-François Delfrécy, qui est directeur de l'Institut de Microbiologie et Maladies Infectieuses, on le connaît bien dans Priorité Santé, il dirige la NRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites. Également avec nous, le docteur Alain Epelboin, médecin anthropologue au CNRS, Musée National d'Histoire Naturelle, consultant pour l'OMS, et le docteur Hilde De Clercq, qui est spécialiste d'Ebola pour Médecins Sans Frontières, en direct des studios de la RTBF à Bruxelles. Elle rentre tout juste de Sierra Leone et au téléphone.
Oui, et puis au cours de cette émission spéciale, nous serons en direct de Dakar. Nous serons en ligne avec la ministre de la Santé et de l'Action Sociale au Sénégal. Awa Marie Colsec sera donc avec nous. Jean-Paul Gonzalez sera en direct, lui, de Washington. Il est virologue, il travaille pour l'agence américaine de Metabiota. Et nous serons en ligne également de Guinée. Épidémie d'Ebola sur place, évidemment, c'est de là que tout est parti. Le docteur Zombré sera avec nous, il travaille pour l'OMS. Et nous ferons le point également sur le Liberia, avec un responsable de Médecins Sans Frontières sur place. Le Liberia, le pays le plus touché en ce moment par l'épidémie. Je vous propose d'ailleurs, si vous le souhaitez, qu'on passe tout de suite au standard. On a un témoignage du Liberia, un auditeur, Maxime, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes dans la capitale, je le disais, le Liberia c'est le pays le plus touché par l'épidémie et vous souhaitiez témoigner finalement de votre quotidien depuis maintenant plusieurs semaines.
Oui, en effet Juan, il faut dire que franchement ici ce qui se passe, on a l'impression que le gouvernement est en train de s'amuser avec la population. Parce que c'est vrai, ils font un semblant d'efforts, mais en réalité, sur le terrain, il est difficile de pouvoir faire face à cette situation. Regardez, par exemple, moi, je suis à Monrovia, la capitale d'un pays, et je vous assure que les mesures qui sont prises sont vraiment dérisoires. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'il faut donner en termes de mérite à la population, parce que c'est la population qui, à son niveau elle-même, essaie de suivre sa mesure, essaie de prendre son petit seau d'eau avec un récipient, avec de l'eau chlorée, ou bien devant un supermarché, vous voyez un seau d'eau là avec de l'eau de Javel, et juste, c'est seulement ce qu'il y a comme mesure.
Ouais, vous avez donc l'impression d'être livré à vous-même, professeur Delfrécy, ça vous inspire quelle impression? Vu de Paris, on a l'impression que tous les moyens sont mis en place aujourd'hui, en tout cas au Liberia, pour faire face à cette épidémie. Et quand on écoute Maxime, c'est loin d'être le cas.
Non, je crois que même vu de Paris, on a l'impression que tant au Liberia qu'ailleurs, il y a encore énormément de choses à faire et beaucoup de retard qui a été pris. Non, j'avais une question à vous poser. Au Liberia, comment ça se passe? Les messages à la radio, les messages dans les magasins, les messages dans les journaux, comment vous recevez ça? Est-ce qu'il y a un matraquage, par exemple, sur les chaînes de radio autour de ça?
Maxime?
Oui, oui. À ce niveau-là, franchement, je pense que oui, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Au niveau des radios de proximité, il y a vraiment la sensibilisation. Et même au niveau, effectivement, des endroits comme les supermarchés et autres, on voit, tout ce qu'on peut voir, c'est juste de l'eau chlorée devant les supermarchés où il est impérativement obligatoire de se laver les mains avant d'entrer. Et c'est ce que je dis. C'est juste ces mesures-là, mais est-ce que la population, vraiment, la population, je pense qu'en grande majorité, pour le moment, n'est pas encore habituée à ces nouveaux, à cette nouvelle donne-là. Voilà, je pense que c'est un changement complet d'habitude, de comportement, et ça, c'est pour le moment, c'est encore un peu difficile. C'est encore un peu difficile parce que moi, par exemple, il m'arrive de voir souvent des gens qui mangent ensemble, parce qu'ici, il faut qu'ils mangent ensemble, parfois avec la même cuillère, avec deux cuillères pour cinq personnes. Voilà, ce n'est pas dû à la pauvreté, mais c'est les habitudes qu'ils ont, le sens du partage, le sens de tout. Et ils ne prennent pas conscience du risque, par exemple, en mangeant avec quelqu'un qui est infecté, avec la même cuillère, vous pouvez aussi l'infecter. Et il y a d'autres petits exemples comme ça qu'on constate autour de nous. Donc, effectivement, la sensibilisation est faite, ça je confirme.
Mais ça ne marche pas forcément. Docteur Eppelboin, juste une réaction, quand vous êtes arrivé, vous m'avez tout de suite dit, si on parle de Monrovia, c'est une cinquantaine de morts par jour d'Ebola.
Il semblerait, oui. Et puis, vous savez, c'est un pays qui est confronté à Ebola pour la première fois. Le personnel local a payé un tribut absolument monstrueux. Donc déjà très peu de médecins, très peu d'infirmiers, une désorganisation. Et puis, comme souvent dans l'histoire des épidémies, un réflexe sécuritaire des autorités qui commence à mettre en quarantaine un quartier non contrôlé socialement et des mesures vraisemblablement peu efficaces. Et maintenant, l'ampleur de la maladie fait que...
Ouais. Que tout le monde panique à tel point que depuis hier, les infirmiers du plus important hôpital Exactement. Du Liberia sont en grève pour demander davantage de moyens et faire face à cette épidémie.
Mais c'est aussi l'occasion de dire que dans la réponse à ces épidémies, il y a des moyens considérables qui sont développés. Mais je ne suis pas certain qu'on s'assure toujours que les acteurs de base, les gars qui sont chargés de suivre les contacts, qui sont en première ligne, soient correctement indemnisés. Et j'ajouterais aussi... que les fonctionnaires qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, leurs familles sont dans un dénuement, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de prime, il n'y a rien qui est fait pour encourager.
Dans les trois pays, 120 personnels soignants qui sont décédés, c'est quand même un chiffre qui est absolument énorme.
Écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête, je crains
malheureusement ces chiffres. Ce sont les chiffres de l'OMS.
Oui. Vous craignez que ce soit pire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. On a un autre auditeur.
Oui, Ibrahima, qui nous appelle de la région forestière, il est dans le sud de la Guinée. La Guinée, c'est de là que tout est parti, en fin d'année dernière. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Anne.
Vous souhaitez saluer tout de même les mesures mises en place.
Oui, absolument. Hein. Il faut le dire... Avant qu'on déclare officiellement la maladie Ebola, c'est vrai, ça a traîné, mais depuis la déclaration officielle de l'existence, l'apparition de cette maladie-là, le gouvernement et ses partenaires ont pris des mesures qui ont porté fruit. C'est vrai? C'est pourquoi à certains moments, d'ailleurs, la courbe de l'évolution de la maladie avait tendance à baisser. Et après, il y a eu un petit relâchement quand même. Hein. Il y a eu un petit relâchement. Sinon, moi, je suis dans une ville qui est à 80 km de Djédou, où la maladie a commencé. Mais depuis le mois de mars, on n'a pas déclaré de nouveaux cas de contamination à Kissirougou. Je trouve à 80 km de l'épicentre de la maladie en Guinée.
Mais ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, vous faites peut-être moins attention qu'il y a 6 ou 7 mois?
Absolument, ça il faut le reconnaître, parce que même hier, le président lui-même, il l'a dit, il y a des médecins qui font des consultations sans se protéger, ils ne portent pas les gants. Le président lui-même, il l'a dit hier. Il l'a dit hier, et ça, on le constate. Parce que moi-même, j'étais dans une clinique privée hier, de passage, j'ai vu un infirmier qui administrait des injections, et le malade, il n'était pas protégé.
Mais est-ce qu'ils ont des gants disponibles? C'est aussi toute la question, on le sait bien régulièrement. Moi, quand je fais un reportage en Afrique, on s'aperçoit que la base des gants, ils n'en ont pas. Docteur Hilde de Clercq, vous êtes en direct des studios de la RTBF à Bruxelles. Dans le New England Journal of Medicine, hein, qui est un journal scientifique de référence de la semaine dernière, MSF considère que la réponse internationale à cette épidémie est dangereusement inadaptée. L'épidémie d'Ebola est devenue incontrôlable depuis plusieurs mois, mais la communauté sanitaire internationale a mis trop de temps à réagir. Docteur Hilde de Clercq, à quel point cette épidémie est hors de contrôle et qu'est-ce qu'on met sous ce terme d'ailleurs, hors de contrôle?
Bonjour. Je peux juste être d'accord avec ce que vous dites. Donc effectivement, on voit dans tous les centres de traitement que MSF a que le nombre de cas, le nombre de patients qu'on voit encore chaque jour, encore aujourd'hui, reste très très grand. Pour dire, nos équipes à Gekedou et Macenta, où effectivement, comme le monsieur le disait, les nombres de cas semblent diminuer, mais maintenant nos équipes revoient des nouveaux admissions. Même chose en fait pour la la Sierra Leone. Notre centre à Calahoun voit toujours une cinquantaine ou traite toujours une cinquantaine de patients de jour à jour. On a toujours des nouveaux admissions et ça, en fait, sans même une bonne, un bon système d'alerte et des bonnes ambulances. Même chose, en fait, pour le reste de la Sierra Leone, je dirais, en tout cas le nord-est, donc Calahoun, Kenema, et maintenant, malheureusement aussi, de plus en plus dans la ville de Bo, qui est la deuxième ville de la Sierra Leone, aussi des nouveaux cas sont rapportés. Même chose à Freetown, des cas sont rapportés.
Mais quand vous dites que la situation est hors de contrôle, quand on est citoyen et qu'on entend ce genre de message à la radio, on a l'impression finalement que le pire ne peut pas être évité. Est-ce que c'est ça le message que vous souhaitez transmettre aujourd'hui ?
Bon, je pense que le principal message qu'on veut transmettre, c'est effectivement que les activités qui sont menées aujourd'hui ne sont absolument pas capables à contrôler une épidémie d'une telle taille. Oui, il y a des centres d'isolation, mais ils sont trop petits pour accueillir tous les patients. On voit ça à Monrovia, on voit ça à Calahoun, on voit ça à Kenema, et même maintenant à Gekedou et Masante, donc côté guinéenne. Donc les centres n'arrivent plus à accueillir tous les cas. Ça, c'est une chose, mais aussi toutes les autres activités nécessaires pour contrôler une telle épidémie, notamment le suivi de contacts, donc de gens en contact avec des patients Ebola, c'est pas fait ou pas assez. C'est fait, mais c'est d'une façon...
Vous manquez encore de moyens. Je voudrais faire réagir le professeur Delfrécy là-dessus, hors de contrôle. Effectivement, vous êtes d'accord avec cette expression qu'utilise MSF ?
D'abord, je pense qu'on a les chiffres qu'on a sont pas très bons, hein. Ça n'est probablement que le sommet de l'iceberg.
Sous-évalué, hein. Donc.
C'est probablement sous-évalué, hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui veut dire aussi que dans les modèles, par exemple, qui travaillent sur... Parce que dans le cadre de ces épidémies, on a des modélisateurs, hein, qui sont capables d'avoir une certaine estimation et de donner différents scénarios qui peuvent guider ensuite. Eh bien, si on part de chiffres initiaux qui ne sont pas la réalité, les modèles ne tournent pas bien. Et d'ailleurs, il y a toute une discussion en ce moment autour de ça. Alors, c'est vrai, ça ne fait que refléter, une fois de plus, l'état sanitaire et le système d'organisation sanitaire, pas seulement sanitaire, mais organisation sociétale d'un certain nombre de ces pays.
Enfin, on a quand même la Sierra Leone, bon, notamment, qui sort, et le Liberia, qui sortent de deux guerres civiles qui ont duré plus d'une décennie.
C'est un point essentiel. Alors, c'est inversement, il faut pas baisser les bras. Hein, et je comprends bien la réaction d'MSF, ils sont sur le terrain depuis le début, ils ont joué un rôle remarquable, hein, qu'on doit souligner vraiment sur le terrain, avec une des centaines de personnes qui ont travaillé autour d'eux, en prenant des risques majeurs. On doit souligner encore l'importance de cette société civile et je dirais de toute cette activité. Bon, après, il faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup d'argent qui vient d'être mis là, de façon très très récente. Mais en effet, maintenant, il faut qu'ils redescendent, et qu'ils redescendent aux gens qui en ont réellement besoin, et qu'on se perde pas non plus, mais on aura l'occasion d'y revenir, qu'on tombe pas seulement dans le médical. Hein. Nous avons une réunion à l'OMS dans les jours qui viennent, et ça va être un des points essentiels, qu'on n'ait pas seulement une réponse médicale, mais qu'on ait foncièrement une réponse sanitaire et culturelle.
On va retrouver dans un instant la ministre de la Santé du Sénégal, mais d'abord un mot, docteur Épelgouin, médecin, anthropologue, vous rentrez de Guinée. Quand la population entend épidémie hors de contrôle, il y a un risque de panique tout de même, en tenant de tels propos.
Il y a la panique, mais lorsqu'on dit hors de contrôle, il faut le situer à deux échelles. À l'échelle macro-locale, c'est-à-dire de pays où effectivement on n'arrive pas à contrôler, et puis à l'échelle micro-locale, où comme un feu d'incendie, on pense avoir surveillé, suivi des contacts, mais il y en a un qui a filé, et c'est comme une braise qui va rallumer un nouveau foyer. Et il faut bien avoir une intelligence de toute la chaîne de transmission depuis le début jusqu'au cas actuel, qui ne sont que des transmissions interhumaines.
C'est important. Le Sénégal est confronté, on le sait depuis la semaine dernière, à un premier cas d'Ebola. On a au téléphone le professeur Awa Marie Kolsek, qui est ministre de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. Professeur Awa Marie Kolsek, bonjour.
Bonjour Claire, comment ça va ?
Bien, c'est à vous qu'on a envie de demander d'ailleurs comment ça va. Surtout, comment va le jeune Guinéen hospitalisé à l'hôpital de Fan à Dakar ?
Comme 50% des personnes qui sont infectées par le virus, ce Guinéen, je crois, va s'en sortir, puisque il va bien. Et nous allons faire d'ailleurs les tests de contrôle aujourd'hui.
Quel a été son parcours avant d'arriver au CHU de Fane?
C'est quelqu'un qui a eu à venir de Guinée et qui est passé normalement par la frontière il y a à peu près 3 semaines, qui a été tout au long de son circuit en bon état, donc il était normal, il est passé normalement, il n'était pas malade, et c'est 4-5 jours après son arrivée qu'il est tombé malade. Il a été dans une structure sanitaire périphérique au niveau de Dakar, et à ce moment-là déjà, les gens lui ont posé des questions par rapport à son contact avec des personnes qui seraient infectées et autres. Et il avait vraiment nié et dit qu'il n'avait jamais vu Ebola, qu'il ne connaissait même pas cela, qu'il venait d'une zone où il n'y avait pas cette maladie. Et donc, il a été pratiquement pris comme un palu. Et il a été traité. Et quand il n'allait pas mieux, il est allé à l'hôpital universitaire à Dakar, à Fane. Et c'est là que le diagnostic a été posé.
Ouais. Madame la ministre, vous avez dit qu'il avait traversé la frontière. On sait que le Sénégal, à plusieurs reprises ces derniers mois, a décidé de fermer sa frontière avec la Guinée voisine. On voit bien que fermer la frontière, ça ne suffit pas.
Alors, dans ce cas bien précis, c'est justement les gens qui ont l'autre argument qui sont un peu, disons, critiques et qui disent que voilà, c'est à une période où on n'avait pas fermé la frontière qu'il est rentré.
Mais on imagine bien qu'il a pu passer par la forêt. Professeur Awamari Kolsek, on a bien compris donc que ce patient est d'abord passé par un centre de santé, puis le CHU de Fane, qui a été exposé, d'après ce que j'entends dire, il y a pas mal de personnel soignant qui a été en contact avec ce malade.
Alors je voudrais, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même reprendre le problème de la frontière. Nous avons fermé une fois la frontière, c'était en avril. Puis la frontière était ouverte et c'est à peine 15 jours qu'elle a été refermée. Donc je dis que c'est un débat qui existe au Sénégal et que beaucoup de personnes se disent en fait il fallait la fermer pratiquement depuis toujours. Et nous ne sommes pas pour cela, nous voulons régler le problème au cas par cas et vérifier les choses, renforcer la surveillance au niveau de la frontière et se préparer parfois quand il est nécessaire en la fermant.
Ouais.
Voilà.
On demandera aux auditeurs, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent en ce moment à Dakar ou un peu partout au Sénégal, de nous dire ce qu'ils pensent de ces fermetures de frontières. Est-ce pertinent?
Claire, je voudrais revenir.
Vous a posé une question quand même très intéressante, c'est que ce jeune Guinéen a été hospitalisé, donc forcément en contact avec le personnel soignant.
Tout à fait. C'est pour ça que notre premier geste a été d'identifier les contacts et de les mettre en surveillance, en observation. Et ce que nous faisons depuis maintenant 4-5 jours où nous avons eu le diagnostic officiel de la maladie.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement mettre en surveillance et combien de personnes? On imagine qu'il y a évidemment les proches, la famille, mais aussi du personnel soignant.
C'est ça, autour d'une 50aine de personnes. Il y a une commission spéciale pour cela qui s'occupe que de ça et qui va rencontrer ces personnes quotidiennement avec une prise de température, vraiment un contact aussi psychologique, etc. Et nous avons aujourd'hui effectivement pratiquement la moitié de ces personnes sont un personnel de santé qui est bien informé mais qui a eu vraiment à être surpris parce que l'interrogatoire n'était pas du tout en faveur de la maladie Ebola.
On est obligé de rendre l'antenne à la rédaction pour le point complet sur l'actualité. Avant, docteur Épelgouin, un mot sur ce qui vient d'être dit par la ministre.
Selon la veille internet, madame la ministre, en plus, vous avez veillé à assurer l'approvisionnement en nourriture de ces personnes isolées chez elles, ce qui est absolument fondamental et souvent oublié.
Une question que vous posez ou une affirmation?
Je pense que madame la ministre ne me le contredira pas.
Madame la ministre, est-ce que votre emploi du temps vous permet d'être encore avec nous dans 10 minutes juste après le journal?
Je vais essayer, mais je vais en réunion. Là, nous avons des réunions de crise tous les matins.
Alors, si vous pouvez reporter votre réunion de quelques minutes, on aimerait bien vous avoir encore quelques instants sur l'antenne d'RFI. Restez avec nous, cette édition spéciale se poursuit, mais pour l'instant, le dernier journal d'Afrique Matin. À tout de suite.